France Musique. France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je suis Willem Lachoumia et je suis né le 2 mai 1974 à Lyon. Je suis pianiste.
Willem Lachoumia, on a parlé de vos racines créoles, maintenant on va parler de vos racines lyonnaises. Car vous êtes né à Lyon, est-ce que vous diriez que c'est la ville de votre enfance ?
Oui, je pense, oui. J'ai vécu pas mal en banlieue, à Bron ou à Rieux, enfin les deux même. Là, en Martinique, j'ai vécu que 2 ans.
Vous avez dit que votre père était militaire. Pardonnez-moi la question, quand j'entends père militaire, j'entends une certaine fermeté, une autorité. Est-ce que c'était le cas ou pas du tout ?
Il y a une certaine rigueur, oui. Mais il y a aussi un sens de la famille et de la communauté. Je dirais que c'est plutôt ça, le militaire. Il m'a raconté que quand il est arrivé en métropole, ils se sont retrouvés dans une cour à Orléans et il neigeait. C'est la première fois évidemment qu'il voyait la neige, parce qu'en Martinique, il ne neige pas. Il y avait un poêle au milieu de la cour et il devait passer la nuit là. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à allumer le poêle, je crois. Enfin bref, ça a été un peu compliqué. Donc ils sont tous rassemblés au milieu pour se tenir chaud pendant toute la nuit. Donc je pense que c'est plutôt ça la première leçon de l'armée, c'est la solidarité. Donc mon père a toujours été... Pour lui, la famille était importante. Quoi qu'il arrive, on fait partie de la famille.
Est-ce que ce sens de la solidarité, vous l'avez vous aussi ? Vous êtes entouré d'amis ou vous êtes plutôt solitaire ?
J'ai quelques amis, un peu partout d'ailleurs maintenant, puisque j'ai pas mal bougé. De très bons amis à Lyon notamment, que j'ai rencontrés au conservatoire, au CNSM de Lyon. C'est les premières amitiés fortes, j'appelle ça les amis de toute la vie. Donc maintenant on est un peu dispatchés, il y en a quelques-uns qui sont à Lyon, d'autres à Genève. Voilà, moi je suis à Strasbourg.
Vous les voyez parfois ?
Oui, on essaie de se voir régulièrement en tout cas.
Votre mère, que faisait-elle ?
Elle travaillait à la poste. Voilà, il y a beaucoup d'Antillais qui ont travaillé sur ces postes-là dans les années 70. Et après, elle est passée au PTT.
Au PTT,
voilà.
Ouais.
Voilà. Et à un moment, la poste et les télécommunications sont scindées en deux et elle est passée à France Télécom.
Et est-ce que vous avez des frères et sœurs ?
J'ai un frère qui vit actuellement au Canada. Informaticien.
Est-ce qu'il y avait de la musique dans votre famille ?
Pas du tout. C'était que moi qui faisais la musique. C'est un peu prétentieux, mais bon. Non, il n'y avait pas de musique. On en écoutait un peu. J'avais un manche-disque. On a détruit pas mal de 45 tours. J'ai pu en récupérer quelques-uns. Mes parents étaient, mon frère non plus, pas sensibles à la musique. Il n'y a que moi qui est... D'ailleurs, c'est moi qui ai demandé à en faire. Souvent dans les familles où... la musique s'impose un peu aux enfants, hein, dans le cadre de l'éducation. Là, c'est moi qui ai demandé, du coup, il y a essentiellement moi qui écoutais de la musique.
Bron, ce sont plutôt des quartiers assez difficiles, n'est-ce pas ?
Oui, plus difficiles maintenant. À l'époque, je n'avais pas vraiment conscience de...
Je crois que Karim Benzema, le footballeur, vient de Bron.
Ah, c'est possible.
Mais donc, il n'y avait pas d'insécurité ou de banlieue difficile à ce moment-là ?
Ben, quand j'étais à Bron, moi j'étais en école primaire, donc je pense que j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Toujours dans les nuages, je vois vaguement l'appartement dans un immeuble, je sais pas combien d'étages, énorme. 70-80, on parlait pas de... Il y avait pas de problème à mon échelle en tout cas. C'est après que c'est venu.
Vous pourriez l'expliquer ?
J'ai une question de génération, c'est-à-dire que je fais partie des enfants de ceux qui sont arrivés. Peut-être que c'est la génération d'après où les problèmes ont commencé, où les questionnements se dire mais pourquoi on habite là, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi notre avenir. Au même titre que en Martinique, c'est problématique aussi. Il y a énormément de drogue qui arrive directement des États-Unis. Quand j'y vais, je vais à Saint-Pierre, je reconnais pas la ville de mon enfance, où les portes sont ouvertes, où on marche dans la rue le soir tard, ça pose aucun problème. Les choses ont considérablement changé. Et puis, pour en revenir à la Martinique, peut-être aussi comme les banlieues, il n'y a toujours pas de travail.
Donc vous avez découvert ce piano à 6 ans. Vous avez attendu un an pour que votre mère accepte de vous mettre en école de musique, n'est-ce pas ?
Oui, parce qu'elle hésitait, elle s'est dit « mais qu'est-ce qui lui prend ? Pourquoi d'un coup il veut faire du piano ?» On peut se poser la question. Mais j'ai insisté, je ne sais pas trop pourquoi. C'est assez étrange, comme si le piano m'appelait un peu. Alors que je ne suis pas d'une famille de musiciens, pas du tout.
Il n'y a vraiment aucune personne, aucun modèle de musicien ou de...
Non, il n'y a pas de modèle. Il y a peut-être un cousin germain de ma mère qui a fait du piano, mais je l'ai rencontré deux fois. Mais à l'époque, je le connaissais pas du tout.
Et vous avez tout de suite aimé les cours ? Ou ça a été fastidieux ? Ou vous étiez à l'aise ?
J'ai quelques souvenirs, mais ça reste assez vague. Puis j'étais dans une... Comment on appelait ça ? Les MJC. J'étais à la MJC de Bourron. Maison des jeunes et de la culture.
Oui.
Et ça, ce que je me souviens, c'est que j'ai appris le piano sans solfège. Il n'y avait pas de cours de solfège. J'étais vraiment avec la méthode rose.
Parce que normalement, le piano, à cette époque, c'était plus pour les gens privilégiés, entre guillemets.
Oui et non. Parce qu'il y a quand même Malraux et Landowski qui se sont arrangés pour créer des différents conservatoires dans les régions, dans les villes. Contrairement au système précédent où tout était autour du cours particulier et que les meilleurs allaient au CNSM de Paris pour valider leur savoir, là, il y avait vraiment une politique d'ouverture. Donc, je crois qu'à la MJC, il y avait des cours de guitare aussi, de batterie. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait, voilà. Et puis, ma mère a simplement ouvert l'annuaire et c'était à deux rues. Donc, c'était assez simple.
Et ça vous a plu tout de suite ?
Oui, oui, oui. Je me suis accroché. Il paraît que c'était un peu compliqué, j'avais un peu rechigné les mains ensemble, hein, parce que commencer la méthode rose, c'est d'abord la main droite, pendant assez longtemps, après la main gauche, et après les deux mains.
Vous vous souvenez d'œuvres que vous jouiez à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a des petites musiques que vous aimiez, qui vous restent encore en tête ?
Qui me restent en tête, non, mais j'ai un titre qui est resté, c'était Les Gouttelettes. Voilà, c'est tout.
Selon vous, pourquoi vous étiez si dans la lune quand vous étiez enfant ? Ça vous intéressait tout simplement ?
Non, ça ne m'intéressait pas. Non, vraiment. Je pense que j'avais mon petit monde intérieur et que j'étais très bien comme ça. On me disait, mais non, tu verras, tu vas apprendre à lire. J'étais là, mais pourquoi faire ? Je pense que ça ne faisait pas sens. Il n'y avait pas d'envie d'apprendre des poésies par cœur pendant des heures, pouvoir lire les panneaux sur l'autoroute.
Alors qu'appuyer sur les touches d'un piano, ça vous parlait ?
Beaucoup plus, ouais.
Pourquoi, d'après vous ?
Peut-être parce que c'est quelque chose qui ne m'a pas été imposé. Je pense que c'est ça, il y a cette idée de s'approprier quelque chose qu'on a découvert tout seul. Il y a cette idée-là. J'aime bien encore fouiner dans des musiques, trouver des compositeurs, des styles, enfin plein de choses. Il y a toujours cette idée de l'idée de curiosité qui est là. Et je pense qu'à l'école, les choses sont imposées. Il y a un programme, il y a des savoirs qu'il faut acquérir. Et peut-être l'idée aussi du collectif qui me convenait pas. Le cours particulier, on s'occupe de moi quelque part.
Vous aviez un rapport fusionnel avec votre mère ?
Assez, pendant longtemps, mais évidemment, je suis un peu revenu là-dessus.
Il faut bien, ouais.
Oui, il faut bien. Mais je pense que oui, il y avait pendant assez longtemps, ouais. Et à la fois, ce besoin d'avoir une chose pour soi. La musique, je ne les partageais pas avec mes parents, ni avec mon frère, ni avec personne. D'ailleurs, je crois qu'à l'école, personne ne savait que je faisais du piano.
Petit secret ?
Non, mais ça me venait même pas à l'esprit d'en parler. Je pense qu'il y a une idée de un peu de jardin secret, sans être secret, mais quelque chose à soi.
Après la Martinique, vous avez emménagé au Murau, et c'est là où vous avez vraiment découvert la musique contemporaine, entre guillemets, avec Rosemary Cabestany, c'est ça ?
Oui, Rosemary Cabestany, qui était une pianiste qui a beaucoup fait de musique contemporaine, avec Diabolicus et Musica, c'était à Barcelone, je crois, c'était Guinjoan qui était le chef d'orchestre. Il connaissait Louis Claret aussi, qui faisait partie de cet ensemble, donc... C'était au conservatoire au Murau, elle s'était retrouvée sur ce poste-là, en arrêtant un peu la carrière. Elle avait plein de partitions, et puis elle nous parlait beaucoup de son expérience. Et elle avait laissé toutes ses partitions au conservatoire, donc du coup on pouvait fouiner un peu, voir ce qui s'y passait. Enfin,
vous aviez 13-14 ans, c'est ça ?
13-14, oui, environ, ouais, j'étais au collège.
Et il y avait l'idée d'écouter des musiques autres que ceux que vos camarades écoutaient ?
L'idée de faire différemment des autres, c'est pas l'idée, elle est pas là, je crois. C'était simplement, c'est toujours la même idée qui revient, c'est-à-dire la curiosité de se dire mais il se passe quelque chose ici et mais comment ça se fait ce monsieur Xenakis, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui lui prend. Enfin voilà, c'est, l'idée elle est plus là. Puis en plus il y avait en complément, à l'époque il y avait une mairie communiste, je crois. Et il y avait une médiathèque où il y avait vraiment énormément de disques.
Au Murau. Hein.
Au Murau, toujours, il y avait tous les opéras de Verdi, il y avait Berg, il y avait tout Chelsea. On peut se dire que, à l'époque, investir dans cette musique. Alors, je sais pas si j'étais le seul à prendre ces disques, en tout cas.
Qu'est-ce que vous a appris Rosemary Cabestany?
C'est elle qui m'a dit que je pouvais prétendre être un professionnel de la musique, sans me préciser évidemment si c'était pianiste ou compositeur, parce que j'écrivais un peu, j'ai composé un peu. C'est pas très concluant, mais... Et surtout, la qualité du son au piano, elle est très, très exigeante, même pour les amateurs, puisque j'étais à ce niveau-là à l'époque. Hein. Elle était très soucieuse de la sonorité au piano. Elle avait travaillé avec Chebeuk aussi. Vraiment, c'était une de ses particularités. C'est ça qu'elle a développé chez moi, l'idée de travailler le son, même sur des pièces de pas forcément du répertoire ou des petites pièces, quoi. Mais l'idée de la sonorité au piano. Et ça a continué après.
C'était une sorte de seconde maman ou de professeur, de figure d'autorité ?
Figure d'autorité, c'est peut-être exagéré, mais... Peut-être un mentor, je sais pas. Peut-être que c'est ce mot-là qui correspondrait.
Vous étiez son chouchou ?
Sans doute. Avec du recul, peut-être. En tout cas, elle a cru en moi.
Alors que vos parents ont tout de suite cru en vous.
Non, c'est plus compliqué. Le monde de la musique est quand même assez étranger. Donc c'est assez particulier comme métier, comme monde. Donc les parents qui baignent pas dedans ont un peu du mal à voir ce que ça peut donner.
Ils rêvaient quoi pour vous, vos parents ?
Alors moi, je devais faire les maths sup, maths spé après le bac. C'est le professeur de mécanique qui m'avait dit que je devais faire les écoles d'ingénieurs. Donc du coup, ça a été un peu la douche froide. Parce que j'y suis pas allé. J'ai été pris, mais je suis pas allé.
Ça a été une rébellion ?
Oui. Oui. Oui, parce que du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant ? T'as un certain niveau au piano, on allait retourner à Lyon.
Vous avez 18 ans à peu près.
Oui, 18 ans. Et là, il y a la possibilité d'intégrer... J'ai été repris de partout, je crois.
Bah, décidément.
Enfin, au niveau universitaire.
Oui, c'est bravo.
J'avais posais les jalons, j'avais IUT, BTS, il y avait deux prépas aussi, dont une à Lyon et l'autre à Limoges, je crois. Et là, je dis non. Finalement, non.
Vous êtes disputé avec vos parents ? Il a fallu s'affirmer à 18 ans ?
Oui, un peu, oui. Avant le bac, oui. J'ai dit, bah, finalement, je ne ferai pas. Donc, ça a été un peu tendu.
Et vous êtes allé voir Rosemary Cabestany pour vous rassurer ?
Pour me rassurer, non. Ils sont allés la voir, surtout, pour leur demander, mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça ? C'était ça, surtout la question.
Revient un petit peu avant, avec Rosemary Cabestany, c'est là où vous avez vraiment enrichi votre répertoire. C'est là où vous avez découvert beaucoup de musique. C'est vraiment une période fondamentale, l'adolescence, non ?
Finalement, oui. Et j'ai lu beaucoup aussi. Toujours à la médiathèque des Mureaux. Parce qu'évidemment, quand j'étais plus petit, j'aimais pas lire. J'ai commencé vraiment à lire quand j'étais en troisième. Quatrième, troisième. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout simplement à la lecture, à la culture, je dirais, en général. Et avec une personnalité forte comme Rosemary, ça aide, parce que c'est une espèce de bibliothèque ouverte. Donc, ça, quelque part, ça nourrit la curiosité.
Et quels ont été les grands chocs, ou de partitions, ou de disques de l'époque ?
Grand choc, ça a été Tristan et Isolde. J'ai enfin écouté le Pierrot Lunaire, parce que j'avais lu c'était dans l'histoire de la musique de Roland.
Manuel?
Je crois. Qui parlait de cette œuvre, il y avait une photo, il y avait un extrait en partition, et ça m'a beaucoup fasciné, et c'est quand j'ai mis les pieds à la médiathèque que j'ai pu enfin écouter cette espèce de fantasme, et où je me suis dit, un jour, je pense que je jouerai. Si je joue ça, je serai bien content. Il y a eu deux œuvres comme ça.
C'était quoi la deuxième ?
La sonate pour deux pianos et percussions de Bartok. Si j'arrive à jouer ça un jour, je peux mourir tranquille.
Et maintenant ?
Je l'ai joué avec quatre groupes différents, je pense.
Donc vous pouvez mourir tranquille ?
Voilà.
Est-ce que vous vous souvenez du nom de la chanteuse de Pierrot Lunaire ?
Helga Pilarczyk, avec Boulez et le domaine musical. Et j'ai même acheté le CD à la gare Saint-Lazare, dans le hall. Je dois la voir encore. Il doit être là.
Pierrot, mein Lachen, hab ich verlernt. Das Bild des Glanzes zerfloss, zerfloss. Schwarz weht die Flagge, wird nun vermast. Pierrot, mein Lachen, hab ich verlernt. Oh, gib mir wieder Ross als der Seele, Genie, Mann der Lyrik, durchlaucht vom Monde. Pierrot, mein Lachen.
Alors, vous tenez la... C'est une sorte de Madeleine de Proust, là, c'est...
Oui, on peut dire. Le Pierrot Lunaire et Helga Pilarczyk, dirigé par Boulez. Ça reste quand même une œuvre de un enregistrement de référence, parce que je vois que c'est Grand Prix du disque, Académie Charles Cros.
Donc c'est le côté prix qui vous a attiré un petit peu, là.
Pas du tout, c'est maintenant que je vois ça. Voilà, chez Hadès.
Vous aviez 13 ans, hein, c'est ça ?
Oui, et j'avais même, parce que j'avais pas de lecteur CD... J'avais demandé à une amie du collège de m'enregistrer sur une cassette.
Oui.
Du coup, elle a fait une copie. Elle m'a rendu, elle m'a dit, c'est quoi ce truc-là?
Mais vous saviez que vous étiez différent des autres enfants, des autres adolescents, en écoutant ça? C'était conscient ou inconscient?
Je pense que c'était inconscient. parlaient pas tellement de musique avec les autres.
Mais hein. Vous saviez que ça n'allait pas leur plaire.
Je m'étais pas posé la question. C'est elle qui a mis le doigt dessus hein, en me disant « T'écoutes ça ?» Je dis « Ben, je sais pas à quoi ça ressemble. »
Le fait que vous venez d'une famille qui ne soit pas de musiciens, on parle de transclasse de nos jours. Vous connaissez l'expression ?
Pas du tout.
C'est les personnes qui évoluent dans des classes sociales culturelles différentes de celles de leurs parents. Est-ce qu'il y a une idée d'être différent de vos parents ? Dans vos goûts, dans votre personnalité ?
Oui, je m'en rends compte tout à fait. J'en avais déjà conscience, même si je mettais pas de mots. Le mot n'existait pas d'ailleurs. Il y avait aussi une volonté, et c'est assez... Ça correspond à cette génération et à la génération aussi de ma grand-mère où on disait « les enfants feront mieux que nous ». Il y a vraiment cette idée-là. Je ne sais pas si elle perdure encore, je ne crois pas. Mais il y avait cette idée de « ben nous, voilà, on est obligé de partir de Martinique pour trouver du travail, donc vous, vous avez intérêt à réussir ». Moi, j'ai souvent entendu ça.
À 13-14 ans, vous composiez, vous avez dit, je crois.
Alors, je me souviens que j'avais écrit des quatre mains et qu'on avait joué ça en audition. Je sais pas si Rosemary s'en souvient. Je traînais avec une amie qui est maintenant prof d'anglais à Montpellier qui s'appelle Mélanie Attenon. Voilà, ça me revient. Je sais pas si elle avait écouté l'émission. Et on a joué mes quatre mains. Je crois qu'on en a joué deux. Alors, ça ressemblait beaucoup à du Eric Satie, hein. Pour être franc.
Pas du Pierrot Lunaire?
Pas du Pierrot Lunaire. C'est venu après. Je sais qu'il y a une mallette. Et dedans, il y a des partitions. Tout est enfermé. Je ne sais pas si je les ressortirai un jour.
Vous avez peur ?
Ben, elles correspondent à un moment de ma vie où je m'étais posé la question, est-ce que j'allais devenir compositeur ? Donc je pense que c'est plus des essais ou des espèces d'esquisses où j'essaie des choses comme ça. J'ai souvenir qu'il n'y a rien d'abouti. À part les quatre mains, mais tout le reste reste à l'état d'ébauche, où il y a des espèces de... Voilà, on essaie. Je pense que ça vient nourrir le fait d'écouter aussi toutes ces musiques, et du coup, se dire, et moi, ici, j'essayais de faire aussi un peu. Puis j'ai vite abandonné.
Parmi les pianistes, les grands pianistes de musique contemporaine dont vous faites partie, il y a Jean-Frédéric Neuburger, qui est pianiste et compositeur, et il y a aussi Bertrand Chamaillou, qui dit qu'il deviendra compositeur, mais plus tard. Est-ce que vous avez peut-être envie de devenir compositeur, mais plus tard?
Je pense pas, ou à moins que ça soit une surprise, comme ça.
Comment vous différenciez le compositeur et l'interprète?
Je pense que j'ai besoin de toucher la matière un peu, même si les sons sont impalpables. J'ai besoin de ce rapport physique avec l'instrument. J'en parle beaucoup aux étudiants. Le fait de s'approprier un instrument qui est à chaque fois différent. Et comment on fait corps, comment on joue avec le piano et pas contre. Il y a cette idée aussi. Et le fait d'avoir uniquement le papier et de laisser à d'autres le soin de jouer, je pense que pour l'instant, ça me convient pas. Je suis plus dans le faire.
Kranker Mond dort auf des Himmels schwarzem Fühn dein Blick so fiebernd übergroß band mich wie fremde Melodie.
C'est sur ce deuxième extrait du Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg, interprété par Helga Pilarczyk, phare de la jeunesse de Wilhelm Latchoumia, que s'achève le deuxième volet de ses grands entretiens. une série proposée par Laurent Villarem, Manon Houssin, Martin Troadec, Marie-Christine Ferdinand, réalisée par Philippe Petit. À retrouver d'ores et déjà en podcast dans son intégralité sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.